Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je suis venu pour qu'ils aient la vie et pour qu'ils aient cette vie en plus grande abondance. Veni ut vitam habeant et ut abundantius habeant. Jésus est venu pour nous donner la vie, ou plutôt pour nous rendre la vie, car nous l'avions perdue. Dieu, le Dieu vivant, avait donné la vie à l'homme. Il avait donné à Adam la vie du corps et la vie de l'âme. Toutes les deux parfaites. La vie de l'âme avec tous ses cortèges, son cortège de dons, de grâces. Et la vie de corps, une vie vigoureuse, puisque Adam a vécu plus de 900 ans. Et qu'il aurait même vécu plus longtemps s'il n'avait pas été chassé du paradis terrestre. Il avait même le privilège de ne pas mourir. Nous aurions aussi connu ce privilège si Adam n'avait pas péché. Nous serions passés de cette terre au ciel sans connaître la mort. Vraiment, Dieu avait donné à l'homme la vie et une vie abondante. Cependant, comme vous le savez, le diable a introduit le péché dans le monde et par le péché, nous avons connu la mort de l'âme et la mort du corps. Alors, pour nous rendre la vie et pour nous la rendre plus abondante, le Fils du Dieu vivant est venu lui-même sur la terre pour mourir et pour ressusciter. En mourant, il a détruit la mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. Et ce retour à la vie se fait en trois étapes. D'abord, Jésus demande la foi, car le juste vit de la foi. L'homme avait cru au démon et il a perdu la vie. C'est en croyant en Jésus qu'il peut la retrouver. Puis Jésus nous demande de recevoir le baptême. Il a dit à ses apôtres, « Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, c'est-à-dire recevra la vie éternelle. » Enfin, il y a une troisième étape, car Jésus n'est pas venu seulement donner la vie, mais il est venu nous la donner en abondance. La vie que nous recevons par la foi et le baptême doit grandir. Et cela se fait surtout par la Sainte Eucharistie, le pain vivant descendu du ciel. Je suis le pain de vie, le pain vivant descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Comme le Père qui m'a envoyé est vivant, et que moi, je vis par le Père, de même celui qui me mange vivra aussi par moi. Les trois étapes du passage de la mort à la vie sont figurées par les trois parties de la cérémonie à laquelle nous assistons. La flamme du cierge pascal qui a été communiquée à nos petits cierges figure la lumière de la foi qui jaillit de Jésus ressuscité et se répand dans les âmes. Lumen Christi, avons-nous chanté trois fois en allumant nos cierges. En ressuscitant, Jésus a pris un corps glorieux, un corps rayonnant de lumière, dont une empreinte est restée sur le sanctuaire en témoignage perpétuel. Cette lumière, c'est la lumière de la gloire, que l'âme de Jésus a communiqué à son corps et l'a rendu ainsi glorieux. Cette lumière, Jésus veut nous la communiquer dès ici-bas par la foi, en attendant un jour de nous donner la lumière de la gloire. La deuxième partie de la cérémonie est consacrée à bénir l'eau baptismale, l'eau destinée à donner la vie aux baptisés. Cette deuxième partie se terminera par le renouvellement des vœux du baptême. Au baptême, nous n'avons pas fait que recevoir la grâce. Nous nous sommes engagés, par l'intermédiaire de nos parrains et marraines, à renoncer à Satan, à ses pompes, à ses œuvres, c'est-à-dire à tout ce qui conduit à la mort de l'âme. Et nous nous sommes engagés à servir Jésus-Christ. Nous sommes engagés donc à renoncer à la mort et à nous donner à la vie. Soyons fidèles à ces engagements. Renouvelons avec conviction nos promesses du baptême. Mais nos efforts ne suffisent pas. Nous avons besoin de la grâce. Nous avons besoin de l'auteur de la grâce, de Jésus-Christ, qui se donne à notre âme en nourriture pour faire grandir la vie en nous. Jésus disait à Saint Augustin, je suis la nourriture des forts, crois et tu me mangeras. Je ne passerai pas dans ta substance comme les aliments de ta chair, c'est toi qui passeras dans la mienne. Et la troisième partie de la cérémonie, c'est donc la messe où nous recevons la Sainte Communion. Mais remarquons que comme nous avons reçu la vie du corps par l'intermédiaire de notre mère, nous recevons la vie de l'âme par l'intermédiaire de la Sainte Vierge Marie, notre mère selon la grâce. Et nous pouvons voir sa présence discrète mais efficace dans les trois parties de cette cérémonie. Le diacre, en chantant l'Exultet, a rappelé que la cire du cierge venait de la mère abeille, Apis mater. Cette flamme, a-t-il chanté, a pour aliment la cire que la mère abeille a produite pour la composition de ce précieux flambeau. Cette mère abeille désigne la Sainte Vierge, qui est vierge comme les abeilles, tout en étant mère. C'est elle qui a produit la chair de Jésus, figurée par la cire du cierge. Si l'on évoque ainsi la Sainte Vierge, c'est qu'elle a un rôle à jouer pour nous communiquer la lumière de la foi qui vient de Jésus ressuscité. Elle est la seule à avoir gardé la foi pendant le samedi saint. En souvenir de cela, l'Église lui a consacré la journée du samedi. Toute la foi de l'Église était donc concentrée dans le cœur immaculé de Marie. Elle a donc un rôle important pour nous donner la foi et aussi pour la conserver. Demandons-lui de nous aider à garder la foi en cette terrible épreuve actuelle de la crise dans l'Église. Dans la deuxième partie de la cérémonie, la bénédiction de l'eau baptismale, la Sainte Vierge est aussi présente. Car, nous dit Saint Léon le Grand, l'eau baptismale figure le sein de Notre-Dame. Pour tout homme qui naît de nouveau, dit-il, l'eau du baptême est comme le sein virginal. Aqua baptismatis instar est uteri virginalis. C'est le même esprit qui a rempli la Vierge, qui remplit maintenant la fontaine baptismale. En renouvelant les promesses de notre baptême dans quelques instants, demandons à la Sainte Vierge, la médiatrice de toutes les grâces, et donc la médiatrice de la grâce de notre baptême, elle qui a entendu les promesses émises par nos parrains et marraines, demandons-lui la fidélité à ses promesses, de renoncer réellement à Satan, à ses pompes, à ses œuvres, et de nous donner à Jésus-Christ pour vivre de la vraie vie. Enfin, la Sainte Vierge sera présente à la troisième partie de la cérémonie, à la messe. Elle est présente à chaque messe, puisqu'elle a été au pied de la croix, et que la messe est le renouvellement de ce premier sacrifice. Mais elle est présente spécialement en cette nuit, où Jésus est ressuscité. Car notre Seigneur à peine ressuscité, est apparu à sa mère, notamment à cause de l'intensité de l'amour du cœur immaculé de Marie. Jésus avait dit le jeudi saint, après la scène, « Celui qui m'aime sera aimé de mon Père, et je l'aimerai et je me manifesterai à lui. » Celui qui m'aime, qui a aimé plus Jésus que la Sainte Vierge Marie? Mais bien, chers frères, quelle résolution prendre en cette nuit de Pâques? Nous devons remercier notre Seigneur qui nous a rendu la vie, qui l'a rendue avec abondance. On a entendu ce chant de l'Exultet, qui est un chant d'action de grâce, vraiment enthousiaste. Mais nous ne devons pas oublier à quel prix Jésus et la Sainte Vierge nous ont rendu cette vie. Nous avons médité vendredi les souffrances de notre Seigneur. Nous avons compris aussi que Notre-Dame, qui avait donné la vie à Jésus, son premier-né, sans douleur, nous a donné la vie à nous autres, ses autres enfants, au prix de grandes douleurs. Alors nous pouvons prendre la résolution de garder jalousement cette vie de la grâce, de veiller sur elle avec sollicitude. Pendant le temps pascal, nous chantons le Regina Caeli. Reine du ciel, réjouissez-vous, Alléluia. Mais pour que la Sainte Vierge puisse se réjouir parfaitement, il ne faut pas que nous l'attristions par nos légèretés, par nos imprudences, par nos étourderies, par nos fautes. Ayons en ce temps pascal une grande délicatesse de conscience. C'est le plus beau cadeau que nous pourrons faire à notre Seigneur et à Notre-Dame en remerciement de ce don de la vie qu'ils nous ont fait. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.